Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dawani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Hallo Gmondi.
Chienne Berry. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Quelle évaluation de la prise en charge des malades dans les hôpitaux, dans les structures sanitaires? Le Grand Dialogue de ce soir s'intéresse à la prise en charge des malades dans les structures sanitaires. Dans quelles conditions sont-ils accueillis? Les structures sanitaires sont-elles suffisamment équipées? Quelles sont les insuffisances? Quelles réponses faut-il apporter? À quoi faut-il s'attendre dans les hôpitaux? Studio Tamani pose le débat en prélude à la Journée mondiale des malades célébrée le 11 février. Nos invités, Sekouli Fadjadji Touré, directeur général de l'Agence nationale d'évaluation des hôpitaux du Mali au téléphone, Dr Modibo Doumbia, président du bureau local de l'Ordre des médecins à Bamako, Abdoulaye Balo, président de l'Association libre des consommateurs du Mali, Alcom. Je suis Imran Akilo Maïga, invité auditeur, téléspectateur, bonsoir et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Modibo, quelle évaluation faites-vous de la prise en charge des malades dans les structures sanitaires?
Merci, M. Maïga. Merci à mon co-débatteur, M. Balo, et au directeur de l'Agence nationale d'évaluation des hôpitaux, à tous les auditeurs de Studio Tamani et téléspectateurs. Bonsoir. Aujourd'hui, nous pouvons dire sans se tromper que le Mali commence à décoller sur le plan de notre système de santé. Parce que nous commençons à avoir des infrastructures de qualité avec des personnels de qualité. Comme tout bon pays, il y a des moments de difficulté, il y a des moments également de marche. Nous sommes maintenant à un niveau où nous avons commencé à marcher. Mais nous devons perfectionner tout cela. Pour dire que quand nous prenons les statistiques qui sont sorties en 2019, nous avons un taux de couverture de 58% des soins de santé dans les structures de santé dans un rayon de 5 km. Et 88% dans un rayon de 15 km. Donc c'est pour dire que la couverture quand même est acceptable sur le plan scientifique. Mais quand on regarde les normes de l'OMS qui dit qu'il faut 23 personnels de santé pour 10 000 habitants, le Mali est au-delà de 7 personnels de santé pour 10 000 habitants. Donc c'est pour dire que l'écart est là. Et nous avons des infrastructures qui sont aujourd'hui en rénovation qui va permettre de donner un souffle nouveau à la population.
Alors est-ce que aujourd'hui les malades sont-ils bien accueillis dans les hôpitaux?
Alors, l'accueil a véritablement amélioré parce que le système qui est informatisé aujourd'hui permet aujourd'hui de connaître le patient qui est à l'entente. Donc, nous avons un système d'accueil qui est informatisé. Le système d'information sanitaire aujourd'hui même est informatisé, ce qui permet d'accueillir facilement les malades. Mais ce qu'il faut dire, la demande est quand même énorme compte tenu du plateau que nous disposons.
Alors, Sekouli Fadjadji Touré, vous êtes directeur général de l'Agence nationale d'évaluation des hôpitaux. Vous venez d'écouter Modibo, il dit « nous commençons à décoller, à marcher ». Est-ce que vous partagez cette évaluation qu'il venait de faire tout de suite?
Merci, M. Maïga. Permettez-moi tout d'abord de saluer l'ensemble de vos téléspectateurs et auditeurs. Nous n'avons pas pu faire le déplacement compte tenu de certaines urgences. Effectivement, je confirme les propos de Dr Modibo, notamment en ce qui concerne le système de santé au Mali par rapport à l'évolution. Donc, mais je tiens à dire que, en fait, la politique de la santé, notamment à travers les différents gouvernements successifs, la santé a été toujours une préoccupation partagée par l'ensemble des gouvernements de l'indépendance à nos jours. Mais effectivement, à ces derniers temps, ces derniers moments, il y a une amplification par rapport à ça. Parce que qui connaît aujourd'hui le besoin de couverture de santé, c'est un besoin très très large. Et essentiellement, il faut rappeler que notamment depuis à partir dans les années 2002, le gouvernement a adopté notamment la politique d'orientation de la santé et la loi, notamment la loi portant loi hospitalière. Donc, tous ces dispositifs juridiques et institutionnels ont permis de booster un peu par rapport au système de santé au Mali. Et bien entendu, comme il a dit aujourd'hui, nous pouvons parler à travers la loi hospitalière. Nous avons aujourd'hui des hôpitaux de deuxième référence, à vocation générale, qu'on retrouve généralement dans nos régions administratives. Et en plus, il y a ce qu'on appelle les hôpitaux de troisième référence, qui sont notamment à Bamako, Gabriel Touré, Poingé et Kati. Et nous avons aussi des hôpitaux de troisième référence avec des vocations spécialisées, notamment IOTA, Odonto. Donc, pour dire que le dispositif aujourd'hui vraiment connaît une certaine amélioration, tant comme il a rappelé, le docteur Mouré a rappelé au niveau de l'accueil, au niveau de la prise en charge des urgences et au niveau en termes d'équipement. Mais cela dit, comme il a dit, je suis tout à fait d'accord avec lui, les besoins augmentent forcément. Donc pour dire effectivement, cette dynamique est maintenue et ça ne fait que se renforcer de gens en plus.
Votre service intervient dans le domaine de l'évaluation auprès des hôpitaux du Mali. Concrètement, quelle évaluation faites-vous des hôpitaux du Mali?
Par rapport à ça, effectivement, nous évaluons les hôpitaux. L'ANH a été créée à travers la même loi hospitalière, notamment l'article 50. Nous évaluons notamment la performance et la qualité des soins. Mais je dis que ce dispositif d'évaluation, à titre de rappel, le dispositif a été mis en place en 2006, mais effectivement, la première évaluation a commencé à partir de 2007. Et tout dernièrement, on vient de faire la dernière évaluation à titre de 2020. Maintenant, concrètement, cette évaluation touche à peu près l'ensemble des domaines de l'hôpital, que ce soit au niveau de la prise en charge, que ce soit au niveau de l'accueil, que ce soit au niveau de mobilisation des recettes, que ce soit au niveau de la gouvernance, que ce soit par rapport à la disponibilité des médicaments, que ce soit par rapport au traitement des déchets biomédicaux, ainsi de suite. Donc, à peu près, nous avons 7 indicateurs. On les évalue par rapport à ces indicateurs. Et il y a il y a 13 indicateurs généraux qui s'appliquent à l'ensemble des hôpitaux. Plus, je rappelle l'hôpital Luxembourg aussi fait partie de cette évaluation, malgré qu'il a un statut différent des autres établissements publics, hospitaliers publics. Donc, c'est pour dire que cette évaluation est faite et sur la base, même le taux, l'appréciation par rapport aux usagers. Donc, c'est à partir de cette évaluation que nous faisons d'abord un atelier pour partager les résultats des évaluations. Et en ce moment, le directeur des hôpitaux ainsi que les commissions sont présents et on partage l'ensemble des évaluations, donc ainsi de suite. Donc voilà, donc c'est un processus participatif, donc on les évalue vraiment sur des critères bien arrêtés à travers un contrat de performance.
D'accord. Abdoulaye Balo, vous êtes président de l'Association Libre des Consommateurs du Mali. Vous venez d'écouter les informations que les deux intervenants ont données. Alors, dites-nous, est-ce que les droits des malades sont respectés dans les structures sanitaires?
Merci à Sidio Tamani de m'avoir donné la parole. Merci au frère Moribou et au directeur de leur contribution. Nous, en tant que structure de veille, de constat, dans le constat général, je suis tout à fait d'accord avec les deux premiers intervenants. Parce que qui connaît les conditions sanitaires et les conditions de traitement des malades dans nos différents hôpitaux il y a quelques années, et si vous prenez les années les années actuelles, il y a une grande différence. On peut dire que nous, dans le constat général, en tant que représentants des consommateurs, on est satisfait. Parce que tout récemment, on a vu les actes posés. Comme frère Mouroubou est là, il y a eu beaucoup d'amélioration dans les différents centres de santé, que ce soit communautaire, que ce soit dans nos hôpitaux, même que ce soit au niveau des régions, même que ce soit au niveau des villages, il y a eu beaucoup d'améliorations dans les dernières années. Donc ça, ça montre l'engagement des responsables. Des responsables pour la préservation de la santé de la population. Donc on les salue de passage. Parce que tout récemment, il y avait des cris partout, surtout à l'hôpital Gabriel Touré. On disait qu'il y avait des problèmes de scandère, idem que Pongé. Des problèmes de dialyse, idem que dans beaucoup de centres de santé. Moi, je pense que les spécialistes sont là, ils peuvent en témoigner. Donc, ce problème-là, c'est devenu un mauvais souvenir. Donc, les autorités s'impliquent pour que nous, la population, appelée consommateur, on puisse avoir la paix du cœur en matière de santé.
Et vous estimez également au niveau de l'accueil qu'il y a eu des améliorations?
Oui. Oui, je suis tout à fait d'accord avec les intervenants.
Auparavant, quelles sont vos difficultés?
Bon, auparavant, même souvent, auparavant, quand un patient venait à l'hôpital, pour faire les premiers soins, c'était du problème. C'était du problème, les gens se plaignaient du premier soin. Mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus ce problème-là. Surtout, je peux dire que surtout avec l'arrivée, ce n'est pas pour jeter du flair aux autorités de la transition, depuis l'arrivée de cette transition dirigée par le colonel Assimi Goïta, il s'est beaucoup basé sur la sécurité, l'économie du pays, c'est vrai, mais sur aussi la santé. Parce que c'est lui, il a pris le cœur pour faire l'hôpital militaire au Mali. Même si jusqu'à présent, il y a des besoins à exprimer, mais ça avance.
Quels sont ces besoins-là?
Bon, et ça ne finit pas. Parce que le monde de la santé, c'est très vaste. C'est très vaste. Et l'État est en train de faire tout possible pour que les consommateurs puissent avoir vraiment des cas à subvenir en matière de santé.
Modibo, vous venez d'écouter Balot tout de suite. Il dit que les gens se plaignaient du premier soin auparavant. Qu'est-ce qui a été amélioré aujourd'hui?
Je pense que véritablement la prise en charge des premiers soins ont véritablement amélioré parce que l'hôpital, le CHU, Centre Hospitalier Universitaire Gabriel Touré, qui est le plateau technique en termes de traumatologie, a amélioré véritablement la qualité de la prise en charge au niveau des services d'accueil des urgences. Parce qu'aujourd'hui, dès que le patient est identifié et que les accompagnants sont identifiés, le personnel fait son boulot et les examens sont faisables à tous les moments. Donc c'est quand même des avancées qu'il faut signaler. Mais nous pouvons dire que l'ordre qui veille sur l'éthique et la déontologie peut dire que les médecins dans toutes les structures de santé s'occupent bien des urgences traumatologiques et des urgences médicales dans les structures. Aujourd'hui, il y a une amélioration qualitative et quantitative de la prise en charge de nos urgences.
L'hygiène dans les hôpitaux joue-t-elle sur les malades?
L'hygiène a une place de choix. Et c'est à ce niveau, le constat quand même est un peu amer parce que nous devons améliorer l'hygiène dans nos hôpitaux. L'hygiène commence par d'abord les usagers, c'est-à-dire les patients, ceux qui les accompagnent. Ils doivent dire que l'hôpital a mis à chaque niveau des poubelles et que des déchets doivent être dans les poubelles et que nous ne devons pas salir l'hôpital. Le personnel, les soignants aussi doivent veiller à l'hygiène. Parce que ce que les gens ne savent pas, tant qu'il n'y a pas d'hygiène, il n'y a pas de soins de qualité. Et une infection commence dès l'entrée de l'hôpital et ça se termine à la morgue. Donc vous voyez que l'hygiène, c'est du début jusqu'à la fin. Et à ce niveau, nous devons améliorer vraiment notre plateau technique. Dans tous les hôpitaux, il y a véritablement des problèmes d'hygiène.
Ce que dites-nous, dans vos évaluations, est-ce que l'IMER des agences de santé est évalué dans vos évaluations?
Merci. L'IMER, on rentre dans les subjectivités parce que, en fait, l'évaluation répond à des critères objectifs. Notamment, on ne peut pas, parce que l'humeur peut être liée à plusieurs facteurs, mais avec des critères objectifs, notamment en ce qui concerne vraiment des taux de mortalité, des taux de conformité, ainsi de suite, vraiment avec des critères réels et objectifs. Donc, pour dire que maintenant, en ce qui concerne le personnel, aussi évalué, effectivement, le personnel est évalué, mais on ne rentre pas dans les questions d'hier parce que vraiment ça, on ne pourra pas vraiment véritablement. Mais en ce qui concerne l'évaluation du personnel, le personnel est évalué notamment sur le type de motivation. Est-ce qu'ils sont réellement motivés? Est-ce que ainsi de suite, vraiment, on demande de façon objective par rapport au personnel. Mais en ce qui concerne les usagers aussi, sont évalués. Maintenant, cette évaluation, parce qu'en fait, quand je suis obligé d'expliquer un peu, l'équipe de l'ANS, quand ils arrivent au niveau de l'hôpital, d'abord l'hôpital est informé à l'avance. Donc, il y a certains indicateurs qu'on prend avec eux, mais il y a d'autres indicateurs qu'on les évalue vraiment à travers des documents, ainsi de suite. Donc, pour dire que par rapport. Maintenant, pour dire que ce que le docteur Mourou a dit par rapport à l'hygiène, effectivement, l'hygiène est extrêmement importante. Que ce soit dans le domaine, les gens commencent par la famille, d'autant plus qu'au niveau de l'hôpital, il y a un rôle assez important par rapport à accorder notamment au traitement des déchets. Donc, voilà. Donc, mais dire que par rapport à l'hygiène aussi, comme il a dit, je tiens à rappeler, il y a le système d'accompagnement au Mali. En fait, on peut comprendre, on est dans une société où le social compte beaucoup. Madame la ministre, actuellement, à travers l'instance, en train de réfléchir sur la possibilité de prendre en charge vraiment des malades sans que le malade ne soit accompagné. Parce que au Mali, c'est vraiment difficile. Imaginons si on a nos tontons ou bien quelqu'un qui est malade, bon, généralement, chacun tient à ce que rende visite aux malades. Voilà. Effectivement, comme le docteur l'a dit, l'hygiène dépend fortement sur les accompagnants. Parce que les gens n'ont pas les mêmes cultures, donc il y a des gens, au contraire, ils amènent souvent des déchets au niveau de l'hôpital. Donc il y a tous ces aspects qu'on est dans une série de réflexions, voir comment vraiment, le malade puisse être pris en charge, notamment par l'hôpital, sans que le malade soit accompagné. Et tant qu'on n'arrivera pas à trouver une solution à ce système, l'hôpital va toujours rester toujours dans une certaines saletés. Voilà. Donc, mais les hôpitaux font énormément d'efforts par rapport à la prise en charge de l'hygiène et par rapport à d'autres aspects.
D'accord. Modibo Balo, quand vous dites qu'il y a beaucoup de choses à améliorer, mm-hmm. faites-vous référence à des magouilles ou au fait que certains médecins renvoient les malades dans d'autres structures privées?
Bon, moi, je pense que avec plus de vigilance et de contrôle maintenant dans les structures de santé, ça a beaucoup diminué. Auparavant, c'était comme ça.
Comme
le
quoi?
Consommateur n'avait pas la paix du cœur quand il rentre dans les hôpitaux ou bien dans les centres de santé. Il y avait beaucoup de magouilles. Même dans les pharmacies, souvent, il y avait problème de médicaments. Comme mon frère vient de dire, par rapport au plateau sanitaire, Ça dépend. Il faut un changement de comportement même des gens qui accompagnent les patients dans les centres de santé. Parce que quand il n'y a pas de plateau sanitaire, comme le frère Mourbo l'a dit, et toujours la maladie va demeurer. Ça, c'est sûr et certain. Donc, comme le chef vient de le dire, maintenant, ils sont en train de prendre des dispositions pour que les malades puissent venir dans les centres de santé sans être accompagnés. Parce que souvent, tu vas voir dans les centres de santé, une malade est là, il va avoir toutes les réunions de sa famille autour de lui. Il est accompagné souvent par 5, 6, 3 personnes. Vraiment, ça dérange même le personnel de la santé. Parce que chaque fois, ils viennent, il faut dire que bon, ce malade-là, il n'aime pas du bruit. Donc, il faut faire moins de bruit. Soit il faut sortir dehors. Et puis souvent, ils sont au chevet du malade, ils ne veulent pas quitter. Donc, cet aspect-là, ça, c'est un comportement qui doit changer dans les centres de santé. Je suis tout à fait d'accord avec le directeur qui sont en train de prendre des dispositions par rapport à ça.
Et vous, en tant que consommateur, oui. Est-ce que vous avez fait des sensibilisations par rapport à ça?
Bon, nous, notre domaine là, c'est très large. Je viens d'apprendre beaucoup de choses. On va s'impliquer. Parce que dans le domaine de santé, bon, c'est pas facile. C'est pas facile, sinon quand vous prenez, parce que souvent il y avait beaucoup de choses qui manquaient à nos centres de santé, hein. Parce que souvent il y a coupure d'électricité. Moi-même j'ai été à l'hôpital de Pongé, à l'urgence. Les gens étaient, comment vous appelez votre truc là, sous dialyse. L'électricité est partie. C'est très dangereux. Normalement, maintenant, sur le plan aspect électricité, ça commence à aller dans beaucoup de centres de santé parce que l'État a mis des paquets pour amener des groupes électrogènes automatiques. Quand l'électricité part, le groupe électrogène automatique il reprend pour éviter plus de risques. Donc il y avait trop de problèmes dans les systèmes sanitaires, il y avait trop de problèmes dans nos centres de santé, mais en note de constat à constat, nous les consommateurs, on voit que ça va mieux en mieux, ça commence à aller.
D'accord, ça commence à aller. Comment de tels actes puissent passer dans nos hôpitaux en l'absence d'électricité dans les structures de santé? Comment peut-on expliquer de tels cas et des magouilles dont il venait d'expliquer?
Bon, je pense que ça, c'est des questions qui ne relèvent pas de l'ordre, mais je pense que c'est des questions qu'il faudrait plutôt poser aux administrateurs des hôpitaux. Et nous sommes praticiens et nous sommes au niveau de l'ordre.
Mais vous qui pratiquez, quelles sont les difficultés lorsque vous êtes déjà dans le travail? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez en l'absence? Quand il y a des coupures d'électricité?
Bon, quand il y a des coupures, toujours, c'est des difficultés énormes et que c'est un problème d'ordre général. Parce que quand il y a coupure d'électricité et que le groupe d'électrogènes n'arrive pas à marcher automatiquement, ça pose un problème d'abord éthique que l'ordre condamne. En tant qu'ordre, nous condamnons cela. Cela n'est pas explicable. Parce qu'il y a une vie en danger dans un bloc, il y a une vie en réanimation. Mais cela relève de la responsabilité de l'autorité publique. Mais l'ordre veille à l'éthique et à la déontologie. Moi, en tant que représentant de l'ordre, je condamne et que cela n'est pas acceptable et que nous ne pouvons pas encourager. L'État doit créer toutes les conditions nécessaires de prendre en charge dans les conditions optimales les patients. Comme il a rappelé, le patient a aussi une charte. C'est son droit le plus absolu d'être soigné dans les conditions les plus aisées.
Alors, comment expliquez-vous du fait que les médecins renvoient à des malades dans d'autres structures privées? Il se peut que des fois, le patient retrouve au même lieu le médecin qui lui a envoyé dans cette structure.
Alors, je pense que ce qu'il faut dire, l'explication est claire. Quand un agent public, dans le statut de la fonction publique, n'a pas le droit d'exercer en privé, cela est consacré dans le statut général de la fonction publique et au niveau de l'activité libérale, le double exercice est interdit. Donc, mais il y a des explications dans certaines situations. Il a rappelé M. Ballot, il disait qu'on avait des problèmes de panne, de scanner dans les hôpitaux publics. Et un médecin, son rôle, c'est de faire une démarche scientifique pour aboutir à un diagnostic. Et pour faire le diagnostic, il y a ce qu'on appelle des examens complémentaires. Il doit faire des examens de sang, des examens d'imagerie, des examens échographie. Donc il doit faire tout cela. Si ce plateau n'existe pas en public, l'éthique aussi oblige le médecin à faire un diagnostic. Et de ce point de vue, il n'a pas à imposer au patient. Il dit au patient, voilà des examens que vous devez faire, mais ces examens ne sont pas disponibles chez nous. C'est son libre choix d'aller partout où il est, sur la République, dans l'espace, et faire ses examens et ramener, mais choisir une clinique ou un laboratoire, cela n'est pas éthique et est à condamner.
De plus en plus, on parle de disparition de médicaments destinés aux malades dans les structures sanitaires. Avez-vous fait des constats?
Moi, personnellement, j'entends, mais je n'ai jamais fait de constat parce qu'il faut être honnête, il y a beaucoup. Ce qu'il faudrait dire, c'est à chaque fois quand nous parlons du problème de santé, il faut remercier quand même le personnel de santé, que ce soit l'infirmier, les brancardiers, que ce soit les paramédicaux, les médecins, ils font un sacrifice énorme. Ils font un sacrifice énorme, mais à un moment donné, ils l'ont rappelé, dans l'évolution normale des choses, il y a eu une crise de confiance entre les soignés et les soignés. Et donc cela va véritablement poser des problèmes. Maintenant, quand le personnel médical fait des prescriptions, il donne
au personnel délégué des soins, il passe pour faire la ronde. Il peut passer, il donne ses soins. Mais en prenant les produits et injectés aux malades, si les parents n'arrivent pas à retrouver les mêmes produits, ils vont dire que c'est volé. Mais il y a des problèmes de débat qui sont posés, mais il faut expliquer parce que pendant les soins, les accompagnants sont mis à la porte. Donc quand lui va rentrer, il va trouver que c'était 10 flacons, il a vu que c'est 8 flacons, il va dire qu'ils ont volé. Parce qu'il peut pas, il y a des problèmes de confiance. Sinon, un problème de vol, un bon médecin ne fera pas.
D'accord. Alors, Touré, dans vos évaluations, est-ce qu'il vous est arrivé une fois de trouver un médecin public dans des structures privées?
Merci. Par rapport à ces aspects, comme on dit, nous, on évalue les structures publiques. Donc, vu qu'on a trouvé un médecin d'un hôpital public dans une structure privée, ça, ce n'est pas notre vocation. Donc, nous, on évalue la structure, les hôpitaux. Donc, pour dire effectivement ce que Dr. Mirou a dit, par rapport au vol et des trucs comme ça, on ne peut pas, du fait, de toute façon, il y a toujours des comportements déviants, ce n'est pas seulement au niveau de la santé, mais on peut retrouver ça pratiquement dans tous les domaines, dans toutes les activités, ou dans toutes les professions. Il y a des gens qui ont des comportements déviants. Mais ces actes, peut-être isolés, ou c'est quelques rares actes isolés, on ne peut pas généraliser ces actes par rapport à ça. Je tiens vraiment à dire qu'effectivement, les travailleurs des hôpitaux, d'une manière générale, les travailleurs, les hommes, les gens qui évoluent au niveau de la santé, c'est des gens qui font beaucoup de sacrifices, énormément de sacrifices. Bon, maintenant, il y a assez de problèmes. Parce que, en fait, ce qu'il faut aussi comprendre dans ce dispositif, on a tendance à ramener toutes les difficultés par rapport à la structure. C'est qu'il faut être honnête, il y a des problèmes, qui sont, on va dire, endogènes et exogènes par rapport aux structures de santé. Voilà, il y a des problèmes qui ne sont pas du tout liés au service. Parce que je prends un exemple. Aujourd'hui, les gens demandent beaucoup de la qualité au niveau des services hospitaliers. Et au niveau de la prise en charge, on demande beaucoup, on insiste. Tout le moyen lambda exige vraiment la qualité, parce que ce qu'il faut dire aussi, on a tous des potentiels malades un jour. Donc, vraiment, et puis la santé aussi, c'est un droit fondamental. Mais si je dis, par exemple, au niveau de la tarification, il y a plus de 20 ans, à peu près, les tarifs n'ont pas bougé. Alors que les hôpitaux, par exemple, doivent faire des recettes. C'est vrai, la santé, on dit la santé n'a pas de prix, mais un coût. Parce que qui connaît les produits, les équipements qui sont utilisés, il y a des coûts par rapport à l'entretien, par rapport ainsi de suite. Donc voilà tous ces aspects. Mais au jour d'aujourd'hui, les tarifs n'ont pas encore bougé. Vous allez voir qu'au niveau d'un hôpital, si on examine quelqu'un à 2000 francs, par exemple au niveau de la chirurgie ou ainsi de suite, par rapport à un autre domaine, mais vous allez trouver dans une clinique ce même examen est à peu près le triple, voire le quadruple, ainsi de suite. Donc voilà tous ces aspects qu'il faut vraiment, on est en train de faire une analyse de fond par rapport à tous ces problèmes. Donc il y a aussi des systèmes de référence, de référence en part. Par exemple, aujourd'hui, en réalité, parce que la loi hospitalière aussi exige à ce que le malade soit pris en charge par l'hôpital. Ça aussi, ça c'est une obligation et on ne peut pas refuser un malade. Alors normalement, le malade, il y a ce qu'on appelle les niveaux de référencement. Un malade, par exemple, qui est par exemple à Kay, sinon à Kenyeba, ne doit pas directement venir, par exemple, à l'hôpital de Gabriel-Touré. Donc c'est tout ça qui a ce problème. Normalement, il doit se référencer et il doit prendre étape par étape, notamment passer par l'hôpital et les gens de Kay, ainsi de suite. Donc voilà, pour dire que, bref, tous les problèmes, les actes pour gérer le risque, vraiment les actes isolés, les comportements déviants de certains, je veux dire même une minorité, et par rapport à ça, on ne pourrait pas généraliser par rapport à ça. Et dans nos évaluations, vraiment nous, nos évaluations portent sur les structures publiques.
Dans les structures publiques, est-ce que vous avez déjà dénoncé des choses comme ça?
Bien sûr. si on a, parce que vous savez, M. Maïga, souvent c'est facile de dire quelque chose, mais c'est difficile de prouver, comme Dr. Mourou l'a dit. On ne peut pas quand même se permettre d'accuser comme ça, il faut apporter des preuves. Je pense que souvent les usagers et les patients aussi, il y a une certaine responsabilité.
Concrètement, qu'est-ce qui vous a touché de plus dans vos évaluations?
Par rapport à nos évaluations, nous allons dire par rapport à notamment l'hygiène. Je vais dire un aspect important. L'hygiène. L'hygiène par rapport au traitement des déchets médicaux. Voilà, il y a des structures qui ont des problèmes par rapport à ce traitement parce que compte tenu même du niveau du chlorine. Donc, voilà. Donc, il y a, par rapport à la prise en charge aussi des urgences, il y a des cas comme ça. Donc, de toute façon, après chaque évaluation, nous faisons des recommandations et ces recommandations sont adressées à chaque hôpital pris individuellement. Et on fait un rapport, le rapport est déposé au niveau du ministère de la Santé.
Balo, est-ce que vous estimez que les responsables des hôpitaux, les médecins, les infirmiers, bref, le personnel assume sa responsabilité et veille sur la qualité des prestations des services?
C'est pourquoi je vous ai dit que au niveau de la santé, ça commence à aller dans notre constat. Parce que ce que le frère Mourbou vient de dire, c'est une réalité. L'agent de santé se sacrifie beaucoup pour les patients. Parce que moi, j'ai dit que la santé, c'est un métier très noble, mais très ingrat. Mais parce que l'agent de santé n'est jamais remercié par les malades. C'est ce que le directeur vient de dire tout de suite. Il est difficile, il est facile de dire quelque chose, mais pour le prouver, ce n'est pas facile. Donc maintenant, par rapport au niveau de nos structures de santé, moi, de mon constat personnel, ça commence à aller. Il y a plein de problèmes, comme je l'ai tout le temps dit, mais ça commence à aller au niveau de nos centres de santé maintenant. C'est tout l'effort du gouvernement à amener tous ces matériels-là pour l'amélioration du plateau sanitaire. C'est vraiment à saluer. Et nous, au niveau de nous, les consommateurs, on ne fait qu'encourager les agents de santé et demander aux patients qui viennent avec leurs parents au niveau des hôpitaux, un certain changement de comportement vis-à-vis du plateau sanitaire. Parce que ça ne peut pas aller sans eux. Mais dans nos hôpitaux, bref, je dis, ça commence à aller. Et nous, les consommateurs, on est satisfaits.
Alors, au niveau de l'accueil, qu'est-ce que vous voulez, une fois au niveau de l'accueil, que ça soit changé pour que le patient puisse être pris en charge automatiquement?
Non, comment s'appelle le docteur vient de dire tout de suite. Il dit au niveau de l'accueil, le ministre est en train de prendre des dispositions pour que quand quelqu'un qui vient à l'hôpital pour faire les soins et que ceux qui l'accompagnent soient plus beaucoup diminués, peut-être une seule personne, soit deux personnes peut rester à côté, soit l'hôpital même prend tous les charges d'accueil sans personne à côté du patient. Nous, on le souhaite. En matière de santé, il y avait beaucoup de problèmes dans nos hôpitaux. Même les conditions d'installation, parce que les lits étaient défaillants. On l'a constaté, il y avait les cafards. On les voyait circuler à longueur de journée dans les chambres. Même les toilettes. C'était pas facile, mais aujourd'hui, ça commence à aller. Ça commence à aller, surtout les deux dernières années, il y a eu beaucoup d'évolution au niveau de nos centres de santé, dans notre remarque.
Cette description qu'il venait de faire, dans quelles conditions vous travaillez parmi ce qu'il venait d'écrire?
Ils l'ont rappelé, je pense que pour améliorer véritablement l'accueil dans les structures de santé, le directeur l'a rappelé, c'est dire tout simplement que les usagers doivent respecter la pyramide sanitaire. La pyramide sanitaire commence par les structures de soins de premier niveau, c'est-à-dire les centres de santé communautaires. Dans chaque commune, il y a des centres de santé communautaires. Quand un patient a mal à la tête, il doit se consulter par un médecin. Après les premiers soins au niveau du CESCOM, il doit le référer avec une fiche médicale au centre de santé de référence, qui est le premier niveau, du deuxième niveau de la pyramide sanitaire. Maintenant, il faut remercier maintenant qu'au niveau maintenant de tous les centres de santé de référence, nous commençons à avoir des spécialistes, que ce soit des pédiatres, des chirurgiens, des gynécologues, les cardiologues. C'est dans cette couverture quand même est acceptable aujourd'hui à l'intérieur du pays. Donc, à partir maintenant du centre de santé de référence, il doit le référer dans l'hôpital de sa juridiction. S'il est à Kay, il doit le référer à l'hôpital de Kay. C'est lorsque maintenant le plateau technique de l'hôpital de Kay ne permet pas de faire sa prise en charge, on fait maintenant une référence évacuation. Il sera évacué dans les structures de troisième niveau. Car c'est là seulement la qui est améliorée. En ce moment, au niveau du Gabriel Touré, on ne va pas soigner des maladies de tête, on ne va pas soigner, on va soigner que des spécialistes, des maladies spécialisées. Mais cette chaîne n'est pas respectée par l'usager. Donc les gens quittent un quartier X pour venir à l'hôpital du point G, à l'hôpital Gabriel Touré, ils ne respectent pas le schéma qui est proposé. Et donc, ça rend la prise en charge difficile. Il y a des prises en charge qui se font aujourd'hui dans les centres de santé de troisième niveau. Si on les ramène au niveau du premier niveau, véritablement, nous allons améliorer encore de façon qualitative notre système de santé.
Est-ce que les consommateurs ont cette information?
Non. Bon. c'est ce qu'ils viennent de dire. Effectivement, on a au moins sur les 80% d'informations.
D'accord. Touré, que devient la réforme hospitalière adoptée le 22 juillet 2002 par l'État malien?
La réforme hospitalière est toujours en cours. Je dis bien, il y a beaucoup d'actions qu'on est en train de mener aujourd'hui.
Depuis 2002?
Oui, 2002, la loi, le gouvernement en 2002 a adopté deux politiques, notamment la loi d'orientation sur la santé et la loi portant loi hospitalière. Ces deux textes vraiment qui font un peu aujourd'hui l'évolution du système de santé. Et il y a d'autres textes. Mais maintenant, effectivement, il y a eu aussi une réforme en 2018, notamment à travers la création des hôpitaux de district sanitaire. C'est-à-dire aujourd'hui, les gens, par exemple, je prends l'exemple des sécheresses, les gens au niveau des districts sanitaires, nous retrouvons des sécheresses, mais aujourd'hui, qui sont en réalité des hôpitaux de district sanitaire, même si l'opération prend un. On est en train de commencer à réfléchir par rapport à l'opération de ces hôpitaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en créant ça, les hôpitaux de district sanitaire, on a essayé de séparer la fonction de santé publique avec la fonction de soins. Donc, désormais, les hôpitaux de district sanitaire seront comme le premier niveau de prise en charge, c'est-à-dire que ce que le docteur a dit, la pyramide sanitaire. Donc, on est dans cette dynamique, déjà au niveau de Burundi, ainsi de suite, donc on est déjà dans cette dynamique. Donc, il suffit vraiment de renforcer maintenant au niveau de ces hôpitaux de district sanitaire, amener le personnel qualifié, notamment des médecins spécialistes, ainsi de suite, pour renforcer ce dispositif. Donc, pour dire que, bref, aujourd'hui, on peut dire, c'est vrai, il y a toujours des difficultés. Ça, c'est inhérent à la vie, il y a toujours des difficultés, quelle que soit une réponse, il y a toujours des difficultés. Mais grâce au gouvernement, au gouvernement successif, et particulièrement au gouvernement de la transition, c'est pas comme M. Dallot l'a rappelé, c'est pas pour jeter des fleurs, mais quand même, il y a eu un bonus quantitatif par rapport à ça. Parce que aujourd'hui, Mme le ministre, vraiment son souhait, c'est d'arrêter ou bien de diminuer autant que possible vraiment l'évacuation sanitaire à l'extérieur.
Pour vous aujourd'hui, oui. Quelles réponses faut-il apporter pour améliorer les structures sanitaires? Réponses concrètes.
Pour améliorer les structures sanitaires, on va dire ça, il faut apporter des moyens, notamment ce que ce soit les moyens techniques, les moyens financiers et les moyens humains. Forcément, ça c'est inhérent. Donc, c'est cette dynamique qui est enclenchée, c'est de voir comment vraiment doter les structures hospitalières en personnel suffisant, en moyens et ainsi de suite pour la prise en charge de l'ensemble des malades. Voilà, donc ça ne peut qu'être ça, par exemple, renforcer vraiment des acquis et corriger les incidents qui existent.
Balo, pour vous, comment améliorer la prise en charge des malades dans les structures sanitaires du pays?
Bon, tout ça, le docteur a fini de parler. Hein. Il dit qu'il faut mettre les moyens. Sans les moyens, rien ne peut aller.
Ça, c'est possible?
Mm-hmm. Oui, c'est possible. Il faut véritablement des moyens. Créer un hôpital national de référence. C'est-à-dire l'hôpital, sa vocation, c'est de recevoir à l'intérieur du pays tous les cas compliqués, un hôpital national de référence. Créer des pôles spécialisés, créer un hôpital dédié à l'enfant, à la pédiatrie, un hôpital pédiatrique, mère-enfant. Vous voyez qu'à un moment donné, nous étions obligés d'envoyer une de nos compatriotes pour accoucher, parce que les spécialistes étaient là pour accoucher, mais le plateau technique ne permet pas d'élever les enfants. Donc ça, c'est un problème du plateau technique. L'État doit injecter des moyens pour relever le niveau de notre plateau technique. Mais il faudrait que l'État motive les personnels de santé. Les médecins maliens sont à la traîne dans la sous-région. Un médecin malien n'a pas 250 000 francs CFA. Comme salaire. Il n'a pas, le médecin malien dans la fonction publique n'a pas 250 000. Vous regardez, vous imaginez tout cela, qu'il doit payer sa maison, il doit envoyer ses enfants à l'école, il doit s'habiller, il doit avoir un bien-être. Vous voyez le problème. Donc ce qui renvoie beaucoup, beaucoup de débats que les médecins sont vus en privé, parce qu'il a aussi une vie. C'est de cela qu'il s'agit. Si le plateau technique est bien fourni et que le personnel est motivé, aujourd'hui, nous avons des ressources humaines de qualité qui font la fierté du pays. Parce que nous, depuis 2018, nous avons commencé à opérer les enfants malades du cœur. Et c'est fait maintenant par les Maliens dans des structures au Mali. Donc tout est possible, mais il faut que le personnel soit véritablement motivé. Et cela relève de la responsabilité publique. Et que l'État doit faire ça.
Il faut que le personnel soit motivé. Touré, vous pensez que c'est possible?
Bien sûr, il faut motiver le personnel. Ça, c'est obligatoire et que c'est possible. Mais c'est les moyens. Donc, il faut comprendre aussi, on est dans un pays où les moyens sont vraiment limités, il y a assez d'urgence. Et si on parle du monde de la santé, il y a d'autres secteurs aussi. Mais le tout en fait, cette politique, ça, c'est vraiment pas à l'œuvre des prérogatives du gouvernement. Et je pense que dans les jours à venir, il faut qu'on ait une politique salariale. C'est pas seulement les gens de la santé, ça, c'est vraiment général. Et c'est d'aller vers ça et voir comment les gens, les agents publics, d'une manière générale, puissent être vraiment mieux payés, afin que vraiment des petits problèmes, des petits problèmes vraiment quotidiens puissent vraiment être indiqués et que les gens vraiment se consacrent vraiment sur le travail.
Vous estimez que les autorités actuelles peuvent relever les défis?
Les autorités actuelles peuvent relever les défis.
En faisant quoi?
Bon, parce qu'ils sont en train de montrer les preuves à longueur de journée dans les centres de santé. Comme le docteur l'a si bien dit, il y a eu beaucoup d'avancées, beaucoup d'améliorations de conditions de vie et de travail, même des agents de santé et la prise en charge des malades. Donc on ne fait que les remercier et qu'ils continuent dans ces lancers-là pour le bonheur de tous les consommateurs maliens.
Merci. Ainsi se referme ce grand dialogue qui réfléchissait sur le thème « Quelle évaluation la prise en charge des malades dans les structures ?» Nous étions avec Sékouli Fadjadji Touré, directeur général de l'Agence nationale d'évaluation des hôpitaux du Mali, Dr Modibo Doumbia, président du bureau local de l'Ordre des médecins à Bamako, Abdoulaye Balo, président de l'Association libre des consommateurs du Mali, à la présentation Imran Akilo Maïga, à la mise en onde et régie vidéo Gagny Kanté et Ounoundiré, à la coordination Mouhamadou Touré. Merci de l'avoir suivi et à demain.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dawani Ouamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chien Nibiri.
Halo du monde.
Chien Nibiri.